Chapitre 32 À l'aventure. Par un motif dont on nous saura gré, nous sommes obligés de jeter le voile sur une certaine partie de l'existence de Mrs. Rebecca Crowley. C'est une de ces concessions qu'il convient de faire à ce monde moral qui, sans déclarer une guerre acharnée au vice, éprouve cependant une répugnance insurmontable à l'entendre appeler par son nom. Dans la foire aux vanités, il est des choses qui se font tous les jours, que personne n'ignore, et dont cependant on ne parle jamais. À la mode de ces sectateurs d'Ariman, qui veulent bien adorer le diable, mais à la condition de n'en jamais prononcer le nom. Un public délicat et poli ne pourra souffrir qu'on lui présente une description du vice dans sa laideur native, tout comme une Américaine ou une Anglaise aux principes sévères et inflexibles se récriera toutes les fois que le mot « culotte » viendra blesser ses chastes et candides oreilles. Et cependant, madame, vous voyez chaque jour ce vêtement si indispensable se promener dans nos villes sans que votre vue en soit autrement offusquée. Si l'on en était réduit à rougir toutes les fois qu'on le voit passer, il faudrait en ce cas disposer d'une terrible provision de pudeur. Mais heureusement, votre modestie ne s'alarme, votre pudeur ne se croit outragée que lorsque ce nom est prononcé devant vous. L'écrivain du présent récit, désirant donner la preuve de sa déférence aux susceptibilités de l'usage, ne fera voir la dépravation que sous son jour léger, coquet, aimable et séduisant, de manière à ne blesser la délicatesse de personne. Aucun de nos lecteurs ne pourrait jusqu'ici accuser Becky, qui certainement n'est pas un dragon de vertu, d'avoir froissé en rien la bienséance dans ses formes extérieures. Et l'écrivain prie ses lecteurs de lui dire si jamais une seule fois il lui est arrivé de manquer aux convenances, et si dans la description de cette sirène à la voix enchanteresse, aux sourires trompeurs, aux irrésistibles séductions, aux artifices pleins de grâce et de coquetterie, nous avons fait paraître à la surface de l'eau les écailles hideuses du monstre. Non, non, jamais. C'est aux gens avides de pareils spectacles de plonger leur regard dans la transparence de l'onde pour contempler à leur aise les contorsions et les replis de cette gueule visqueuse et gluante qui s'enroule autour des eaux broyées et des cadavres palpitants de ses victimes. Mais a-t-on jamais vu paraître à la clarté du jour rien qui puisse blesser les lois les plus sévères de la décence, du goût, des bonnes mœurs? Le tartuffe le plus cafard de la foire aux vanités a-t-il jamais eu le droit de crier au scandale? Quoi, la sirène disparaît et se plonge dans l'élément liquide pour aller se repaître de cadavres? L'eau s'agite alors et se trouble sans que l'œil le plus curieux parvienne, malgré de vains efforts, à distinguer les mystères que cache cette fange. C'est bien assez de contempler ces créatures redoutables lorsque sur leurs rochers elles s'accompagnent de leurs instruments et attirent par un chant qui doit donner la mort. Mais lorsqu'elles s'enfoncent et plongent dans l'élément qui les a vues naître, croyez-moi, il n'est pas bon d'examiner leurs évolutions sous-marines et d'assister à ces horribles festins où ces anthropophages se repaissent de chair humaine et de membres en lambeaux. De même, Becky a disparu à nos regards pour quelque temps. À merveille, et nous ne perdons pas grand-chose à n'avoir pas à parler de ses faits et gestes pendant cette période. Si nous donnions le compte exact de sa vie pendant les 2 années qui suivirent la catastrophe de Curzon Street, peut-être certaines personnes auraient-elles le droit de nous accuser de manquer à la bienséance, car Becky encourut, pendant ce temps, les reproches que méritent presque toutes les personnes qui sacrifient à de vains plaisirs les nobles inspirations du cœur et du devoir, reproches encore plus légitimes lorsque cette personne est une femme dans laquelle on ne trouve ni foi, ni tendresse, ni principe. Pour ma part, je penche à croire que Mrs. Becky, inaccessible aux remords, se trouva pour un temps en proie à un sombre désespoir et, prenant en quelque sorte sa personne en dégoût, n'eut plus aucun souci de sa réputation. Ce n'est jamais du premier bond que l'on arrive au dernier degré de l'infamie et de la dégradation, mais on y descend par une pente insensible en dépit de tous les efforts pour se retenir. C'est l'histoire du naufragé qui, cramponné longtemps à un débris du navire comme à une dernière chance de salut, sent peu à peu ses forces l'abandonner et finit par lâcher tout et se laisse aller au fond de l'abîme qui se referme sur lui. Becky errait à l'aventure dans la ville de Londres, tandis que son mari prenait toutes ses dispositions pour se rendre au poste qui venait de lui être désigné. Elle fit, comme on en peut douter, plus d'une tentative pour revoir son beau-frère et réchauffer des sentiments auxquels elle s'était, en quelque sorte, acquis des droits réels auprès de lui. Un jour, Sir Pitt, en compagnie de M. Wenham, se rendait à la Chambre des communes, ce dernier découvrit Mrs. Rawdon, qui, cachée sous un voile noir, faisait le guet aux abords du palais législatif. Elle s'esquiva comme une couleuvre quand ses yeux rencontrèrent ceux de M. Wenham. Ses projets échouèrent donc en ce qui concernait le baronnet. Peut-être aussi Lady Jane y était-elle bien pour quelque chose. On nous a raconté que son mari fut tout étonné de l'énergique vigueur qu'elle déploya en cette occurrence et de la résolution avec laquelle elle se déclara contre Mrs. Becky. Elle engagea spontanément Rawdon à venir demeurer à Gaunt Street jusqu'à son départ pour Coventry Island. Dans son opinion, un pareil hôte ne pouvait manquer d'écarter Becky de sa porte. Toutes les adresses des lettres qui arrivaient pour son mari passaient rigoureusement par son inspection, dans la crainte que sa belle-sœur ne fût en correspondance avec Sir Pitt. Mais pour écrire, il aurait fallu à Becky cette présence d'esprit que nous lui avons connue jadis. Or, elle ne fit aucune tentative pour voir Pitt ou lui écrire chez lui, et obtempéra à ses désirs en ne lui faisant remettre de correspondance touchant ses débats matrimoniaux que par des gens d'affaires. Le fait est que l'on n'avait rien négligé pour indisposer contre elle l'esprit de son beau-frère. Peu après l'arrivée de Lord Steyne, Wenham avait eu une conférence avec le baronnet et lui avait communiqué sur Mrs. Becky des détails biographiques qui avaient fort étonné le député de Crawl et la reine. M. Wenham en savait long sur son compte. Il n'ignorait ni ce qu'était son père, ni l'année où sa mère avait débuté à l'opéra, ni les détails de la vie antérieure de Becky et de sa conduite pendant son mariage. Comme nous sommes persuadés que la plupart de ces récits étaient accrédités par la malveillance, nous ne voulons point nous en faire ici l'écho. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Becky avait singulièrement baissé dans l'estime de son noble parent, qui jadis la voyait avec des yeux fort prévenus en sa faveur. Bien que les émoluments de gouverneur à Coventry Island ne soient pas fort considérables, une partie fut mise de côté par son excellence pour servir à acquitter certaines dettes ou être placée en rente viagère. Les charges de cette position entraînaient d'ailleurs des dépenses considérables. Après avoir établi la balance de son budget, Rawdon constitua à sa femme une rente de 300 livres sterling qu'il s'engageait à lui faire tenir à la condition expresse qu'il n'entendrait plus jamais parler d'elle. Autrement, il se montrerait décidé à ne point reculer devant le scandale d'une séparation judiciaire. Mais, en somme, M. Wenham, Lord Steyne, Rawdon lui-même, tout le monde enfin avait intérêt à étouffer cette malheureuse affaire et à faciliter à cette femme les moyens de sortir de la Grande-Bretagne. Ce fut sans aucun doute le tracas des arrangements avec les hommes d'affaires qui empêcha Mrs. Rawdon de rien faire pour son fils ou même d'aller le voir et lui dire adieu. L'enfant était sous le patronage immédiat de son oncle et de sa tante qui avaient réussi à entrer fort avant dans la confiance et la tendresse de leur neveu. Rebecca écrivit à l'enfant une lettre datée de Boulogne. Elle l'y exhortait à bien travailler et elle lui annonçait qu'elle allait visiter le continent, que là elle se proposait bien de lui écrire encore plus d'une fois. Mais une année se passa sans qu'elle donnât aucun signe de vie, et elle ne se décida à écrire que lorsque le fils de Sir Pitt, après une existence maladive, mourut enfin d'une complication de rougeole et de coqueluche. La mère de Rawdon écrivit alors à son cher fils une lettre des plus tendres. Cette mort, en effet, le rendait héritier de Crawl et la reine, et son excellente tante, qui était déjà comme une mère pour Rawdon, reporta sur lui toute l'affection qu'elle éprouvait pour l'enfant qui venait de lui être enlevé si cruellement. Le petit Rawdon Crawley était maintenant un beau et grand garçon, et il rougit beaucoup à la réception de cette lettre. « Ma tante Jane, lui dit-il, ma véritable mère, c'est vous, et non pas elle. » Il n'en répondit pas moins par une lettre fort respectueuse à Mrs. Rebecca, qui se trouvait alors dans un hôtel de Florence. Mais n'anticipons point sur les événements. Dans son premier vol, l'intéressante Becky n'avait pas été s'abattre bien loin. Après avoir traversé le détroit, elle s'était arrêtée à Boulogne, asile ouvert à toutes les innocentes créatures, méconnues par d'injustes concitoyens. Là, elle prit une femme de chambre et deux pièces dans un hôtel et mena une existence assez agréable en se faisant passer pour veuve. À la table d'hôte, elle s'était acquis une réputation d'amabilité et racontait à ses voisins des histoires sur son frère Sir Pitt et sur les hauts personnages qu'elle connaissait à Londres. Elle avait cette parole élégante et facile, dont l'effet est immanquable sur les gens d'un rang inférieur. Au milieu de cette société de second ordre, elle passait pour une personne qu'il ne fallait point traiter comme tout le monde. Elle invitait à venir prendre le thé dans sa chambre et partageait, tout comme les autres, les innocentes distractions que cette localité offre à ses visiteurs, telles que les bains de mer, les courses en char à bancs, les promenades sur la plage, les parties de spectacle. Mrs. Burjoyce, la femme de l'imprimeur qui était venue se fixer à l'hôtel pour la saison d'été, et auprès de laquelle M. Burjoyce se rendait très exactement le samedi soir pour passer avec elle la journée du dimanche, Mrs. Burjoyce chantait partout les louanges de Becky. Mais ces éloges cessèrent un beau jour où Burjoyce avait montré beaucoup trop de prévenance à l'égard de Becky. Les torts, n'en doutez point, étaient du côté de Mrs. Burjoyce, car le seul reproche qu'on put faire à Becky, c'était de se montrer peut-être trop accueillante et trop aimable, surtout à l'égard des hommes. On était alors dans la belle saison, à cette époque de l'année qui, pour tous les Anglais, est le signal de déserter le sol natal et de se disperser sur la surface du globe habité. Becky put, de cette manière, juger plus d'une fois de quelle façon sa conduite était appréciée dans la haute société de Londres, au milieu de laquelle elle avait été naguère introduite. Un jour qu'elle se promenait sur la jetée de Boulogne, elle se trouva face à face avec Lady Tartlett et sa famille, qui contemplaient les blanches falaises d'Albion se dessinant dans le lointain sur l'azur du ciel et des eaux. À sa vue, Lady Tartlett se retrancha derrière son ombrelle, et, rassemblant autour d'elle ses filles en bataillon carré, elle battit en retraite, en foudroyant du regard notre pauvre Becky, qui se trouva dans un complet isolement. Une autre fois, étant allée assister au débarquement du paquebot, un matin où il avait fait beaucoup de vent, elle s'amusait à considérer les ravages causés par le mal de mer sur la figure des passagers. Lady Hingstone se trouvait au nombre des victimes et avait énormément souffert de la traversée. Ses jambes pouvaient à peine la soutenir pour traverser la planche qui conduisait du navire à la jetée. Mais elle retrouva toute son énergie en apercevant Becky, qui, sous son chapeau rond, la regardait avec un sourire impitoyable et railleur. La noble dame y répondit par un air de souverain mépris, et d'un pas résolu se dirigea vers le bâtiment de la douane sans avoir besoin de soutien. Becky fit semblant de rire, mais je n'oserais assurer qu'elle fut au fond fort contente. Désormais repoussée de tous, en apercevant de loin les blanches falaises de l'Angleterre, elle comprenait qu'il lui était interdit pour toujours d'y rentrer. Les hommes aussi avaient singulièrement changé dans leur manière d'agir avec elle. Greenstone lui riait au nez et la traitait avec des airs de familiarité qui lui déplaisaient fort. Le petit Bob Suckling, qui, 3 mois auparavant, lui parlait toujours chapeau bas et aurait fait 1 mille par une pluie battante rien que pour se trouver sur le passage de sa voiture, étant un jour à causer sur la jetée avec le jeune Fitzouf, officier aux gardes, au moment où Becky passait, la salua à peine de la tête avec un petit air de connaissance et sans se déranger le moins du monde de sa conversation. Tom Rakes eut l'impertinence de se présenter chez elle avec un cigare à la bouche. Elle lui ferma, il est vrai, la porte au nez, et si elle eut un regret, ce fut de ne pas lui avoir pris les doigts dans les battants. C'est ainsi que le vide se faisait de plus en plus autour de Becky. S'il avait été ici, se disait-elle, ces lâches n'auraient jamais osé m'insulter. Elle se mettait alors à penser avec une tristesse mêlée de regrets à l'honnête homme confiant et fidèle de la part duquel elle avait toujours trouvé une soumission absolue, une humeur des plus égales, un dévouement sans bornes, et sans doute alors elle se mettait à pleurer, car ces jours-là, sa figure était plus animée et plus rouge que de coutume quand elle descendait pour le dîner. Les outrages du sexe le plus noble ne lui étaient peut-être pas encore aussi intolérables que la sympathie qu'affectaient certaines femmes à son égard. Deux de ces créatures qu'elle avait dédaignées à Londres, en traversant Boulogne, vinrent lui faire leurs compliments de condoléances et prirent avec elle des airs protecteurs qui lui causèrent un accès de rage. Ces dames, après l'avoir embrassée, la quittèrent en souriant, et elle entendit le colonel Hornby, leur cavalier servant, pousser sur l'escalier des éclats de rire dont il n'était que trop facile de comprendre le sens. Après cette visite, Becky, qui avait exactement payé sa note de chaque semaine, qui était d'une politesse exquise avec la maîtresse de l'hôtel, et qui, par tous les moyens, s'était efforcée de se faire bien venir des gens de service, Becky eut la douleur et l'affront d'entendre le maître de la maison l'engager à chercher un autre logement, vu qu'il lui était impossible de la recevoir dans un hôtel fréquenté par des femmes honnêtes. Elle se vit donc réduite à prendre gîte ailleurs et à s'ensevelir dans un isolement qui lui devenait de plus en plus odieux. En dépit de tous ses rebuts, elle essaya toutefois de se faire une réputation et d'avoir raison de la médisance. Elle se rendit à l'église exactement, y chanta plus haut que personne, se mit à la tête d'une bonne œuvre pour les veuves et les matelots naufragés, donna des dessins et des broderies pour la mission de Kouachibou, fut dame patronesse de plusieurs œuvres charitables et renonça complètement à la valse. En un mot, elle se couvrit des dehors les plus respectables, et c'est précisément le motif qui nous engage à nous arrêter plus longtemps sur cette partie de sa vie, car les autres ne serait peut-être pas aussi bonne à rapporter. Mais les sourires des uns, les airs de mépris des autres, ne lui échappaient pas, et cependant, vous n'auriez pu deviner, à l'expression de ses traits, quels étaient ses supplices intérieurs. Sa vie, du reste, était un mystère, les opinions à ce sujet étaient partagées. Parmi cette espèce de gens qui trouvent toujours du plaisir à se mêler des affaires d'autrui, les uns déclaraient qu'elle était coupable, tandis que les autres la proclamaient aussi blanche qu'un agneau et rejetaient tous les torts sur son affreux mari. Elle s'était fait plus d'un partisan par les larmes abondantes qu'elle versait toutes les fois qu'il était question de son enfant, par le luxe de douleur qu'elle étalait toutes les fois que ce nom revenait dans la conversation ou qu'elle voyait quelqu'un lui témoigner de la sympathie à ce sujet. C'est ainsi qu'elle avait gagné le cœur de la bonne Mrs. Alderney, qui tenait le sceptre dans la société anglaise de Boulogne et qui donnait à elle seule plus de bals et de dîners que toutes les autorités réunies. Pour cela, il lui avait suffi de répandre des larmes lorsque le petit Alderney, pensionnaire du docteur Swishtail, était venu passer ses jours de congé auprès de sa mère. « Mon Rodon a le même âge, et je crois l'avoir sous les yeux », avait dit Becky en étouffant ses dernières paroles dans un soupir. Or, il y avait tout simplement 5 années de différence, et les deux enfants se ressemblaient tout autant que l'aimable lecteur à son très humble et très obéissant serviteur. Mais Wenham, étant venu à passer à Boulogne pour aller rejoindre Lord Steyne, renversa tout cet échafaudage sentimental. Il apprit à Mrs. Alderney comme quoi il pouvait lui dépeindre le petit Rodon beaucoup mieux que sa mère, qui le détestait au vu et au su de tout le monde, et avait toujours cherché à le voir le moins possible. Il lui dit que le petit Rodon n'avait que 9 ans, qu'il était blond, tandis qu'Alderney était brun, et enfin, il laissa à l'excellente dame le regret d'une sympathie mal employée. Partout où Becky portait ses pas errants, elle réussissait ainsi, à force de peine et de travail, à gagner la bonne grâce de tout son entourage. Puis arrivait quelqu'un qui, d'un mot, faisait évanouir cette bienveillance si péniblement acquise, et il fallait aller recommencer ailleurs la même besogne. C'était là une existence bien pénible et bien dure, qui, montrant à Becky l'étendue de l'abandon où elle se trouvait, la poussait peu à peu au désespoir. Une certaine Mrs. Newbright prit pendant quelque temps parti pour elle. Elle avait été séduite par la douceur de son chant dans les cantiques chantés à l'église, et par la profondeur de ses vues sur quelques points d'une haute gravité dans lesquels Mrs. Becky avait acquis une certaine force lors de son premier séjour à Crawley-la-Reine. Non seulement elle avait lu, mais encore étudié certaines brochures dogmatiques. Elle faisait, en outre, des gilets de flanelle pour les sauvages de Quachibou, des bonnets de coton pour les Indiens de Coconut. Elle peignait des écrans pour l'œuvre de la conversion du pape et des juifs, et assistait à tous les sermons et à tous les offices de sa chapelle. Mais, hélas, tant de zèle devait finir par être sans résultat pour elle. Mrs. Newbright, ayant eu occasion de correspondre avec la comtesse de Southdown au sujet de la fondation de la Société de la Bassinoire pour la conversion des insulaires de Free Joe, elle reçut, à propos de certains éloges qu'elle donnait dans une lettre de sa chère amie Mrs. Rodon Crawley, une réponse de la comtesse Douairière, où celle-ci lui communiqua des détails qui firent cesser toute espèce de rapport entre Mrs. Newbright et Mrs. Crawley. Toutes les personnes graves de Tours, ce fut là que Becky eut à essuyer ses désagréments, évitèrent dès lors, comme la peste, la société de cette réprouvée. Nulle part Becky ne réussissait à former un établissement durable. Ses efforts avaient toujours le même et triste sort. De Boulogne, elle avait été à Dieppe, de Dieppe à Caen, de Caen à Tours. Partout, elle avait tenté de s'entourer de considération, et partout, il lui avait fallu un beau matin déguerpir et prendre la fuite devant les vautours acharnés à sa ruine. Au milieu de ces courses aventureuses, Becky avait fait la connaissance d'une certaine Mrs. Hook Eagles, qui jouissait d'une réputation irréprochable et d'une maison dans Portman Square. Elle habitait un hôtel de Dieppe au moment où Becky était venue y chercher refuge. Ce fut à la mer que ces dames se virent pour la première fois. Après avoir nagé côte à côte, elles se retrouvèrent dans la même position à la table d'hôte de l'hôtel. Comme tout le monde, Mrs. Eagles avait entendu parler de l'affaire de Lord Steyne, et en cela, elle en était au même point que tout le monde. Mais à la suite d'une conversation avec Becky, elle déclara que Mrs. Crawley était un ange, son mari un gredin, Lord Steyne un vieux débauché, sans foi ni loi, comme c'était du reste connu de tout le monde, et qu'enfin toute cette affaire n'était qu'une infâme conspiration de ce traître de Wenham contre l'innocence et la vertu de Mrs. Crawley. « Si vous aviez pour 2 liards de cœur, Monsieur Eagles, disait-elle à son mari, vous tiendriez une paire de soufflets toute prête pour ce drôle la première fois que vous le rencontreriez au club. » Mais M. Eagles était déjà d'un certain âge et d'une humeur peu belliqueuse. Par état mari de Mrs. Eagles, par goût géologue et d'une taille peu pyramidale, il ne voulait prendre qui que ce fût par les oreilles. Mrs. Eagles, après avoir ainsi placé Mrs. Rodon sous sa haute protection, voulut qu'elle l'accompagnât à Paris et se fâcha contre la femme de l'ambassadeur qui refusait de recevoir sa protégée. En un mot, elle ne négligea rien de ce qui était humainement possible pour attirer à Becky tout le respect que mérite une personne vertueuse. Becky eut pendant quelque temps la tournure d'une personne fort rangée et fort respectable, mais cette nécessité d'observer si rigoureusement les convenances lui devint bientôt d'un ennui mortel. Les journées se ressemblaient avec une monotonie désespérante. C'était un bien-être fastidieux à force de régularité. Chaque jour, même promenade en voiture dans le même bois, aux environs de Boulogne. Même société tous les soirs. Même sermon de Blair tous les dimanches. On eût dit une comédie qu'on s'empressait de recommencer sitôt qu'elle était finie. Becky en avait par-dessus la tête. Par bonheur, arriva de Cambridge le jeune Eagles, mais sa mère, s'étant bientôt aperçue de l'impression produite sur lui par sa jeune amie, notifia à Becky que rien désormais ne la retenait plus. Elle songea alors à tenir une maison avec une autre personne de son sexe. Mais leur temps se passa à se quereller ou à faire des dettes. Puis ensuite Becky essaya de la pension bourgeoise. Elle entra dans la fameuse maison tenue par Madame de Saint-Amour, rue Royale à Paris. Et là, elle commença à faire l'essai de ses grâces et de leur puissance séductrice sur les dandies un peu râpés et les beautés équivoques qui fréquentaient les salons de la maîtresse de la maison. Becky aimait la société. Elle en avait besoin à tout prix, comme un fumeur d'opium ne peut se passer de sa pipe, et en somme, elle fut assez satisfaite du temps qui s'écoula pour elle dans cette pension bourgeoise. Pendant quelque temps, Becky sut obtenir le sceptre dans les salons de la comtesse, mais à la fin, ses anciens créanciers de 1815, ayant sans doute découvert son gîte, la forcèrent de quitter Paris, et la pauvre créature n'eut que tout juste le temps de se diriger en toute hâte sur Bruxelles. Elle avait conservé de cette ville un souvenir parfaitement exact. Elle ne put retenir un sourire de satisfaction en se retrouvant à l'entresol, jadis occupé par elle, et d'où elle avait pu contempler la famille Bear Acres, demandant à grands cris des chevaux pour fuir, tandis que la voiture restait stationnaire sous la porte cochère de l'hôtel. Elle visita Waterloo et Laeken, et reconnaissant dans ce dernier endroit le monument élevé à George Osborne, elle s'amusa à en prendre une esquisse. « Ce pauvre Cupidon, murmura-t-elle tout bas, il m'aimait à en mourir. Cette tête-là n'était pas sans un grain de folie. Et la pauvre Amy, est-elle encore de ce monde? C'était là une bonne petite créature. Je n'oublierai jamais son gros gaillard de frère. Je crois avoir quelque part dans mes papiers la caricature de sa grosse personne. En somme, c'était d'assez braves gens, mais un peu naïfs. » Becky arrivait à Bruxelles, recommandée par Madame de Saint-Amour à son amie la comtesse de Borodino, veuve d'un général de Napoléon, le fameux comte de Borodino, auquel son illustre maître n'avait laissé en mourant d'autres ressources que la table d'hôte et l'écarté. Des élégants de bas étage, des roués de second ordre, des femmes qui n'ont jamais eu de mari, des Anglais qui se figurent avec leur candeur native que ces salons leur représentent la meilleure société du continent et se font un plaisir d'y dépenser leur argent, tel était le personnel qui garnissait la table d'hôte de Madame Borodino. De jeunes dupes régalaient tour à tour la compagnie de vin de champagne, allaient au bois avec ces dames, louaient des voitures pour les parties de campagne et des loges à l'opéra pour la soirée, puis se pressaient au-dessus de ses blanches épaules pour parier autour des tables d'écarté et écrivaient à leurs parents des lettres où ils se félicitaient d'avoir leur entrée dans les maisons les plus distinguées de la capitale. Là, aussi bien qu'à Paris, Becky était l'âme de toutes ces fêtes et charmait les maisons où elle allait. Elle acceptait le champagne, les promenades à la campagne, les bouquets, les loges au théâtre, mais ce qu'elle mettait au-dessus de tout, c'était le jeu, et elle s'y livrait avec une folle audace. Elle risqua d'abord une mise fort modeste, puis vint ensuite la pièce de 5 francs, puis les napoléons, puis les billets de banque. Si parfois elle se sentait gênée pour payer ses mois de pension, elle s'adressait à quelque jeune homme qui lui prêtait de l'argent, et lorsqu'elle se trouvait en fond, elle traitait avec la dernière insolence Mrs. Borodino, que la veille elle avait cherché à amadouer par ses cajoleries. Il y avait des jours où elle n'aventurait que 10 sous sur le tapis, c'est qu'alors ses finances étaient à sec. D'autres fois, au contraire, elle risquait tout un quartier de ses revenus et se disait toute prête à s'acquitter envers Madame Borodino. Ces jours-là, elle aurait tenu contre tous les chevaliers d'industrie de la terre. Un beau jour, Becky quitta Bruxelles, devant, il faut bien le dire, 3 mois de pension à Madame de Borodino, qui, pour s'en venger, ne manquait jamais de raconter à tout Anglais qui venait chez elle quel était l'amour de Becky pour le jeu et la boisson. Par quelle habile comédie elle avait su soutirer de l'argent à M. Muff, ministre de l'Église réformée. Les audiences particulières qu'elle avait données dans sa chambre à Milord Noodle, fils de Sir Noodle et élève de M. Muff, et enfin 100 autres coquineries, au courant desquelles la comtesse de Borodino ne manquait pas de mettre ses visiteurs. C'est ainsi que notre voyageuse promenait sa tante à travers les différentes capitales de l'Europe et menait une existence aussi vagabonde que celle d'Ulysse ou du Juif errant. Ses dispositions à l'intrigue ne faisaient chaque jour que croître et embellir, et elle devint bientôt une vraie bohémienne dans toute la force du terme, ne fréquentant plus que les gens dont la réputation ne répand pas précisément un parfum d'honnêteté. Il n'existe point de ville un peu importante en Europe où les industriels anglais n'aient établi une succursale et dont le public ne puisse voir les noms affichés dans la cour du shérif. Ce sont souvent des jeunes gens de très bonne famille, répudiés par leur famille, vrais piliers d'estaminets et maquignons ambulants, sous les auspices desquels ont lieu les courses de chevaux à l'étranger et s'ouvrent les maisons de jeu. C'est parmi cette espèce de gens que se recrute surtout la population des prisons pour dettes. Ils aiment le vin et le tapage, les duels et les rixes. Et quelques beaux matins, on apprend qu'ils ont disparu sans avoir payé leurs notes. Au jeu, ils se feraient scrupule de ne point tricher. Lorsqu'ils ont plumé quelques innocents pigeons, on les voit s'étaler à Baden-Baden dans d'élégantes briscas. Ont-ils la poche vide, on les aperçoit rôdant avec un air piteux et des habits râpés autour des tables de jeu, jusqu'au moment où ils parviennent à glisser une fausse lettre de change à quelques juifs avides ou à dépouiller une nouvelle dupe. Ces alternatives de grandeur et de misère présentent de singulières bizarreries. C'est une vie de fièvre continuelle et parfaitement conforme, du reste, aux goûts et aux dispositions de Becky. Elle errait ainsi de ville en ville, s'adressant partout à ses sociétés de bohémiens. Dans toutes les maisons de jeu de l'Allemagne, le bonheur de Madame de Rodon était devenu proverbial. Avec Madame de Cruche-Cassé, elle ouvrit une maison à Florence et l'un de mes amis, M. Frédéric Pigeon, me raconta que, chez elle, à Lausanne, après s'être grisé à un souper, il avait perdu 800 louis contre le major Lauder et l'honorable M. Dieuseis. Nous sommes obligés d'esquisser rapidement la biographie de Becky, mais à en juger par ses traits rassemblés au hasard, moins on en dira et mieux cela vaudra. Quand la fortune tenait Mrs. Rebecca au bas de la roue, elle avait alors recours aux concerts et aux leçons de musique. Une matinée musicale fut donnée à Wildbad par une certaine Madame Rodon, avec le concours du premier pianiste de l'Hospodar de Valachie, M. Spoft. Mon jeune ami, M. Eves, qui connaît tout ce monde et a visité tous les pays, m'a affirmé qu'étant à Strasbourg en 1830, il assista au début d'une Madame Rebec dans l'opéra de la Dame Blanche et que son apparition sur le théâtre souleva une épouvantable tempête. Elle fut sifflée à outrance par toute la salle, en partie pour son peu d'habitude de la scène et en partie à cause des sympathies maladroites que lui avaient témoignées de l'orchestre quelques officiers de la garnison. Yves était certainement convaincu que l'infortunée débutante n'était autre que la malheureuse Rodon Crowley. Elle en était ainsi réduite à l'état de ces êtres nomades pour qui la vie s'écoule au jour le jour. Dès qu'elle avait de l'argent, elle le jouait. Quand elle l'avait joué, elle ne reculait devant aucun expédient pour s'en procurer, et Dieu sait par quels moyens elle y parvenait. On la vit quelque temps à Saint-Pétersbourg, mais elle reçut bientôt un ordre de la police de quitter cette capitale, ce qui prouve la fausseté de la chronique qui, plus tard, la représente comme résidente à Töplitz et à Vienne en qualité d'espion de la Russie. On m'a raconté aussi qu'à Paris, elle retrouva une de ses parentes, sa grand-mère maternelle, qui, loin d'être une Montmorency, remplissait les fonctions d'ouvreuse de loge dans l'un des plus crasseux théâtres des boulevards. Leur entrevue, comme me l'ont donné à entendre des témoins oculaires, fut très touchante et très pathétique. Mais les détails à ce sujet n'ont point un caractère assez authentique pour que l'historien se hasarde à les répéter. Il arriva qu'à Rome, Mrs. Rodon eut à toucher un semestre de sa pension chez le principal banquier de la ville. Et comme tous ceux qui avaient chez ce prince des usuriers un compte ouvert de plus de 500 scudi étaient invités au bal qu'il donnait pendant l'hiver, Rebecca reçut une invitation et parut à l'une des splendides soirées du prince et de la princesse Polonia. La princesse était de la maison des Pompili, qui descendent en ligne directe du second roi de Rome et d'égérie de la maison d'Olympus. Le grand-père du prince Alexandre Polonia vendait des pains de savon, des essences, du tabac, des mouchoirs de poche, se chargeait de maintes commissions délicates, moyennant salaire, et prêtait de l'argent à la petite semaine. Toute la haute société de Rome se pressait dans ses salons. Princes, ducs, ambassadeurs, artistes, vieux ou jeunes gens de tout rang et de toutes conditions, tout le monde y accourait. Des flots de lumière éclairaient ces somptueux portiques. Les murs étaient couverts de boiseries dorées et de toiles d'une authenticité suspecte. Une vaste couronne d'or surmontait l'écusson princier du propriétaire. un énorme champignon d'or sur champ de gueule, avec une fontaine d'argent, représentant les armes de la famille Pompili, brillait à tous les chambranles des portes et sur toutes les boiseries. Et enfin, sur le dais qui ombrageait l'estrade tapissée de velours et destinée à recevoir les papes et les empereurs. Becky était arrivée par la diligence de Florence et était descendue dans un hôtel d'une apparence fort mesquine. Elle reçut néanmoins une invitation pour la fête du prince Polonia. Sa femme de chambre l'habilla avec un soin tout particulier. Puis Becky se rendit à ce bal au bras du major Lauder, en compagnie duquel elle voyageait alors. C'était le même major qui, l'année suivante, tua en duel le prince de Ravioli à Naples et fut roué à coups de canne par Sir John Buckskin pour avoir mis par mégarde, en jouant à l'écarté, quatre rois dans son chapeau, en sus de ceux qui se trouvaient dans le jeu. Ces deux honnêtes personnes se rendirent donc ensemble au bal, et Becky y reconnut une foule de visages qu'elle avait rencontrés dans des temps plus heureux, alors que, sans être plus vertueuse, elle jouissait du moins de la réputation qui s'attache à cette qualité. Le major Lauder y retrouva une foule d'étrangers à la mine équivoque, aux moustaches effilées, portant à la boutonnière des rubans froissés et fanés, et laissant voir le moins de linge possible. Quant aux Anglais, ils se détournaient à l'approche du major. Becky y rencontra aussi quelques dames de sa connaissance, des veuves françaises, des comtesses italiennes d'une provenance douteuse, victimes, comme toujours, des brutalités de leurs maris. Pour nous, qui fréquentons la meilleure compagnie de la foire aux vanités, quittons vite cet égout où s'agite tout ce que ce bas monde renferme de plus impur. Jouons, si nous y trouvons du plaisir, mais que ce soit au moins avec des cartes propres et non avec des cartes grasses. Mais, hélas, il suffit d'avoir un peu voyagé pour s'être trouvé en présence de quelques-uns de ces escrocs qui portent les couleurs du roi, montrent une commission parfaitement en règle et font profession de dévaliser leurs semblables jusqu'au moment où, sans autre forme de procès, on les prend à quelques coins de rue. Becky, toujours au bras du major Lauder, parcourait les salons du prince Polonia et figurait d'une manière fort méritante dans les nombreux assauts donnés au buffet et au champagne par une armée irrégulière d'avides invités. Quand notre couple se sentit suffisamment rafraîchi, il dirigea ses pas vers un petit salon de velours rose où venait aboutir cette longue suite d'appartements. Là, au milieu de la pièce, on voyait la statue de Vénus mille fois répétée par les glaces de Venise qui garnissaient les lambris. Le prince avait fait servir dans cette pièce un petit souper fin pour les hôtes qui l'honoraient d'une distinction particulière. Parmi ses convives d'élite, assis à cette table privilégiée, se trouvait Lord Steyne. Becky l'eut bien vite reconnu. La blessure faite par la broche avait laissé une cicatrice rougeâtre sur ce front lisse et blanc. Les favoris d'un rouge clair avaient reçu une teinte plus foncée, ce qui ajoutait encore à la pâleur de sa figure. Il portait son collier, ses ordres, son ruban bleu et sa jarretière. C'était le plus important personnage de la réunion, bien qu'on y comptât cependant un duc régnant et une altesse royale. Sa seigneurie avait à côté d'elle la belle comtesse de Belladonna, dont le mari, le comte Paolo della Belladonna, célèbre par ses collections entomologiques, était en ce moment en mission auprès de l'empereur du Maroc. Becky, en apercevant l'illustre tête à laquelle se rattachaient tant de souvenirs, dut être plus vivement choquée de la vulgarité du major Lauder et de l'odeur infecte de tabac que répandait le capitaine Roque. Elle chercha sans doute à retrouver les grands airs, à reprendre les allures et les sentiments qu'elle étalait avec tant de supériorité dans sa petite maison de Mayfair. « Cette femme paraît sotte et capricieuse, » pensa-t-elle tout bas. « Je suis sûr qu'elle ne sait comment s'y prendre pour le distraire. » Il doit en avoir déjà par-dessus la tête, ce qui ne lui est jamais arrivé avec moi. La crainte, l'espoir, les souvenirs firent battre ce petit cœur, et Becky, avec des yeux où brillait un éclat surnaturel, augmenté encore par le rouge qui entourait sa paupière, contemplait fixement le noble personnage auquel ces plaques réservées pour les grandes occasions donnaient encore une nouvelle majesté. Comment ne pas admirer ces manières faciles et pleine d'une familiarité imposante. Ah, c'était bien là le type du grand seigneur à l'esprit pétillant, à la conversation aimable, aux manières empreintes d'une exquise distinction. Et pour le remplacer, elle avait un troupier qui puait le cigare et l'eau-de-vie, un capitaine Rook dont les bons mots sentaient l'écurie, qui ne parlait que courses et que chevaux et autres sujets de la même espèce. « Je voudrais bien savoir s'il me reconnaîtrait », pensait Rebecca en elle-même. Au même instant, Lord Steyne, qui causait avec une grande dame placée à ses côtés, leva les yeux et aperçut Becky. Ses jambes tremblèrent sous elle à la rencontre de leurs yeux. Toutefois, elle eut assez d'empire sur elle-même pour adresser au noble lord un de ses plus gracieux sourires, accompagné d'un petit salut bien timide et bien suppliant. Pendant une minute, Lord Steyne la regarda d'un œil tout effaré, et il resta les yeux fixes et la bouche béante, comme Macbeth à la vue du spectre de Banquo, jusqu'au moment où l'affreux major Lauder entraîna Becky d'un autre côté. « Gagnons le souper, » lui avait dit son cavalier. « Avoir mangé tous ces gros personnages, cela donne appétit. Dépêchons-nous d'aller dire un mot au champagne du gouverneur. » Becky trouvait que le major lui en avait déjà dit beaucoup trop long. Le lendemain, elle alla se promener au Corso, ce rendez-vous des oisifs de Rome, espérant y retrouver Lord Steyne. Mais elle n'y vit que M. Fenouille, l'homme de confiance de sa seigneurie, qui, l'abordant avec un salut assez familier, lui adressa les paroles suivantes. « Je savais, madame, vous trouver ici, car je vous suis depuis le moment où vous avez quitté votre hôtel, et j'ai à vous faire une communication qui vous intéresse. » « De la part du marquis de Steyne ?» demanda Becky en s'efforçant de prendre un air de dignité qui déguisait mal l'agitation où la jetait la crainte et l'espérance. « Non, » reprit l'homme de service, « mais de ma part. Le climat de Rome est un climat fort malsain. »« Oh, pas encore, monsieur Fenouille. Attendez à Pâques pour cela. »« Je vous répète, madame, qu'il est des gens auxquels il ne convient en aucune saison. Il y règne une malaria dont le souffle empoisonné fait des victimes en tout temps. Moi, je vous ai toujours considérée comme une brave femme, et, parole d'honneur, je serais fâché qu'il vous arrive un malheur. Vous voilà averti, c'est à vous maintenant de quitter Rome, à moins que vous ne soyez fatigué de la vie. » Becky s'efforçait de rire, mais elle était au comble de la rage et de la fureur. « Vous plaisantez, monsieur Fenouille, on irait assassiner une pauvre femme ? Voilà qui ressemble fort à du roman. Miller Steyne a donc des bras vifs pour cocher et des stylets plein ses voitures. Je reste, entendez-vous, ne serait-ce que pour le faire enrager, et d'ailleurs, j'ai plus d'un défenseur. » M. Fenouille se mit à rire à son tour. Des défenseurs, et qui donc? Le major, le capitaine, tous ces chevaliers du tapis vert qui forment le cortège obligé de madame, et qui, pour 100 louis, se chargerait de la débarrasser du fardeau de la vie. Nous en savons fort long sur le major Lauder, qui n'est pas plus major que je ne suis marquis, et au besoin, l'on pourrait l'envoyer aux galères. Allez, allez, nous sommes bien informés, et nous avons des amis partout. Nous savons parfaitement vos rencontres de Paris, et quelle parenté vous y avez retrouvée. Madame a beau ouvrir de grands yeux, c'est comme j'ai l'honneur de le dire. Comment se fait-il qu'aucun de nos ambassadeurs sur le continent n'ait consenti à recevoir madame? C'est qu'elle a offensé quelqu'un qui ne lui pardonnera jamais et dont la fureur s'est réveillée à son aspect. La nuit dernière, en rentrant chez lui, Milord était dans une agitation qui tenait de la démence. Madame de Belladonna lui a fait une scène à cause de vous. Jamais on ne l'avait vue dans un pareil accès de fureur. C'est pour le compte de madame de Belladonna que vous faites alors cette démarche, dit Becky, se remettant un peu du trouble où l'avait jeté cette conversation. Nullement, elle n'est pour rien dans tout ceci. La jalousie est son état normal, et puisqu'il faut vous le dire, c'est de la part de monseigneur. Vous auriez le plus grand tort de vous montrer à lui. Et si vous restez ici, vous pourrez bien vous en repentir. Rappelez-vous le conseil que je viens de vous donner. Partez vite. Mais voici la voiture de Milord. » En même temps, M. Fenouille, saisissant Becky par le bras, l'entraîna dans une autre allée du jardin, au moment où la voiture de Milord Steyne, toute chargée d'armes et de devises, débouchait comme un ouragan à l'entrée de l'avenue, traînée par des chevaux du plus grand prix. Madame de Belladonna était assise dans le fond de la voiture. Elle avait un air sombre et maussade, portait un King Charles sur les genoux et s'abritait derrière une ombrelle blanche. Lord Steyne était étendu à côté d'elle, la face livide et les yeux à moitié morts. La haine, la colère, le désir pouvaient de temps à autre leur rendre un éclat passager, mais d'ordinaire ils semblaient éteints et fermés pour un monde dont ce vieux débauché avait épuisé tous les plaisirs et toutes les illusions. « Son Excellence n'est pas encore remise de la crise de cette nuit », murmura M. Fenouil à l'oreille de Mrs. Crawley, tandis que la voiture disparaissait dans un tourbillon de poussière. Et alors seulement, elle sortit de derrière les buissons qu'il avait dérobés au regard du noble lord. « Tant mieux », pensa Becky, qui prit cela comme une consolation. Milord nourrissait-il en réalité des projets d'assassinat contre Mrs. Roughton, ainsi que M. Fenouil le lui avait donné à entendre, ou avait-il seulement mission de l'effrayer pour la forcer à quitter la ville où sa seigneurie se proposait de passer l'hiver et où elle n'eût pas été bien aise de se retrouver face à face avec son ancienne connaissance? C'est là un point qui n'a jamais été fort bien éclairci. En ce qui concerne ce digne serviteur, nous dirons seulement qu'après la mort de son maître, il retourna dans son pays natal, où il vécut respecté de tous jusqu'à la fin de ses jours, sous le titre de baron Finelli, qu'il avait acheté de son souverain. Quant à Becky, cette menace eut tout l'effet qu'on en attendait, si l'on cherchait seulement à se délivrer par là de la présence de cette petite aventurière. Pour ce qui est du marquis de Steyne, chacun sait la triste fin de ce noble personnage qui succomba à Naples 2 mois après la révolution de 1830. On lisait à ce propos dans les journaux « L'honorable Georges Gustave, marquis de Steyne, comte de Gaunt Castle, père d'Irlande, vicomte d'Elborough, baron de Pitoblay et de Grigby, chevalier de l'ordre de la Jarretière, de la Toison d'or d'Espagne, de l'ordre russe de Saint-Nicolas de première classe, de l'ordre turc du Croissant, premier lord du cabinet des poudres, valet de chambre ordinaire de Sa Majesté britannique, colonel du régiment de Gaunt, conservateur du musée britannique, administrateur du collège de la Trinité, gouverneur de Greyfriars, est mort de la douleur que lui a causée le triomphe de la faction orléaniste. » Cette éloquente énumération de titres parut successivement dans tous les journaux de la semaine, et l'on fit les plus pompeux éloges de ses vertus, de sa libéralité, de ses talents, de ses bonnes actions. Son corps fut enseveli à Naples, et son cœur, qui n'avait jamais battu que pour de nobles et généreuses inspirations, fut transporté à Castle Gaunt dans une urne d'argent. « Les arts et les malheureux, écrivit M. Wagg, ont perdu en lui un protecteur éclairé, la société un de ses plus beaux ornements, l'Angleterre un de ses plus grands citoyens. » Son testament ouvrit le champ à un grand nombre de débats, et l'on chercha quantité de chicanes à Madame de Belladonna pour l'obliger à restituer un magnifique diamant que sa seigneurie portait toujours au petit doigt, et qu'on accusait cette dame d'avoir détourné après le regrettable trépas de Lord Steyne. Mais l'homme de confiance de Milord, M. Fenouil, prouva que cette bague avait été offerte à la dite Madame de Belladonna par le marquis 2 jours avant sa mort, ainsi que les billets de banque, les bijoux, les valeurs françaises et napolitaines qu'on l'accusait d'avoir pris dans le secrétaire de sa seigneurie et que les héritiers n'eurent pas honte de réclamer à cette femme aussi honnête que calomniée. Chapitre 33. Peines et plaisirs. Le lendemain de la rencontre dont nous avons précédemment parlé, Joss apporta à sa toilette une recherche et un luxe inaccoutumés, et sans faire part à ses compagnons des événements de la nuit ni les avertir de sa sortie, il descendit de grand matin dans la rue, et on put le voir prendre des renseignements à la porte de l'hôtel de l'Éléphant. Les fêtes avaient rempli la maison de voyageurs. Les tables, au dehors, étaient déjà garnies de personnes qui fumaient en buvant de la bière. À l'intérieur flottait un nuage de fumée qui empêchait de rien distinguer. M. Joss, après avoir, avec sa solennité ordinaire, et dans un allemand qu'il maniait assez mal, poursuivit ses investigations touchant la personne qu'il cherchait, recueillit des indications qui le conduisirent enfin dans la partie la plus élevée de la maison. au-dessus des étages successifs occupés par des gens de profession nomade, il arriva à de petites chambres situées sous les combles où, parmi des étudiants, des commissionnaires, des marchands forains et des paysans, il dénicha enfin l'humble réduit où Rebecca avait été enfouir ses appâts séducteurs et qui était assurément le plus modeste qui ait jamais reçu la beauté. Cette atmosphère convenait à Becky, et elle se sentait à son aise au milieu de cette tourbe de bohémiens, d'étudiants, de joueurs, de saltimbanques. Son père et sa mère, tous deux bohémiens par goût et par nécessité, lui avaient légué cette nature aventureuse et remuante qui, à défaut de la conversation d'un lord, lui faisait trouver du charme à celle d'un laquais. Le bruit, le mouvement, l'odeur de la pipe et du vin, les refrains des étudiants, le langage original des faiseurs de tours, enfin tout ce qu'il y avait d'imprévu et d'irrégulier dans ce désordre, enchantait et ravissait cette petite femme, alors même que la fortune capricieuse lui refusait de quoi payer sa note à l'hôtel. Et depuis que sa bourse s'était arrondie de tout l'argent que le petit Georgie lui avait fait gagner la veille, elle trouvait un nouveau charme à cette vie de tumulte et de hasard. En atteignant la dernière marche, et tout essoufflé de cette ascension, Joss s'arrêta sur le palier et chercha à découvrir le numéro 92. En face du numéro 92, qui était la chambre qu'on lui avait indiquée comme étant celle de la personne qu'il demandait, se trouvait le numéro 94, dont la porte entr'ouverte laissait voir un étudiant en bottes à haute tige, en tunique boutonnée et crottée jusqu'à l'échine. Il était couché sur son lit et fumait sa pipe, tandis qu'un autre étudiant, aux cheveux blonds et flottants, portant une tunique à brandebourgs fort râpée et fort crottée, se tenait un genou en terre et l'œil collé sur la serrure du 92. Par cette voie de correspondance, il adressait les supplications les plus pressantes à la personne qui occupait la chambre. « Laissez-moi !» répondait une voix bien connue qui fit tressaillir notre ami Joss. « J'attends quelqu'un, j'attends mon grand-père, et je ne voudrais pas qu'il vous trouvât chez moi. » « Ange de la Vertérine, continuait l'étudiant aux cheveux dorés et aux grandes boucles d'oreilles, prenez-nous en compassion. Laissez-vous fléchir à nos prières et venez dîner avec moi et Fritz dans un des restaurants du parc. Nous aurons des faisans rôtis, de la bière, du plum pudding et du vin de France. Ne nous refusez pas, si vous ne voulez avoir à vous reprocher notre mort. » « Oui, notre mort, reprit l'autre, sans se déranger seulement de son lit. Joss entendit tout ce colloque, mais il n'y comprit rien, attendu qu'il n'avait jamais fait aucun effort pour savoir la langue qui se parlait autour de lui. « Numéro 92, s'il vous plaît, » demanda Joss d'une voix solennelle, lorsqu'il se sentit assez remis pour pouvoir parler. « 92 ?» dit l'étudiant en se relevant. En même temps, il s'élança dans la chambre qu'il ferma au verrou, et Joss put distinguer les éclats de rire qu'il faisait avec son camarade. L'ex-fonctionnaire du Bengale était tout déconcerté de cet accueil lorsque la porte du 92, s'ouvrant d'elle-même, laissa passer la petite figure de Becky sur laquelle se trahissait une expression à la fois railleuse et sournoise. Elle courut au devant de Joseph. « C'est vous !» lui dit-elle. « Ah, si vous saviez avec quelle impatience je vous attendais !»« Arrêtez, tout à l'heure. Dans une minute, vous pourrez entrer. » Cette minute fut employée par elle à cacher sous sa couverture son pôle rouge, une bouteille d'eau-de-vie et une assiette avec un reste de pâté. Puis elle donna un coup de peigne à sa chevelure et alors seulement elle introduisit son visiteur. En guise de robe du matin, elle avait un domino rose, vieille guenille couverte de taches et de souillures et portant à plusieurs endroits des traces de pommade. Mais de ses larges manches sortaient des bras éblouissants de blancheur et de beauté, et sa robe serrée autour de sa taille svelte et mince laissait deviner d'une manière assez avantageuse la délicatesse des formes qu'elle dessinait à demi. Elle introduisit Maître Joss dans sa mansarde. « Entrez, lui dit-elle, et causons un peu. Tenez, voici une chaise. » Et, accompagnant la voix du geste, elle imprima un léger mouvement à la main de son visiteur et l'obligea de force à s'asseoir sur sa seule et unique chaise. Quant à elle, elle se plaça sur le lit, prenant bien garde à la bouteille et à l'assiette qu'il recelait, et évitant de s'asseoir dessus, ce que Joss n'aurait pas manqué de faire si elle lui avait permis de prendre cette place. Après cette installation, la conversation s'engagea entre elle et son ancien admirateur. « Les années n'ont pas eu grande prise sur vous, lui dit-elle, avec un regard de tendre intérêt. Je vous aurais reconnu n'importe où. Qu'on est heureux en pays étranger de se retrouver en face d'un ami loyal et dévoué. » À dire vrai, en ce moment, l'ami loyal et dévoué n'avait rien dans l'expression de sa figure qui justifia ces deux épithètes. On y remarquait plutôt l'embarras et la stupéfaction. Joss jetait un regard inquisiteur sur le singulier local qu'occupait son ancienne passion. Une de ses robes était jetée sur un des montants de son lit, une autre accrochée à une patère plantée sur la porte. Un chapeau couvrait à moitié un miroir cassé, à côté duquel était placée une jolie petite paire de bottines couleur bronze. Un roman français se promenait sur la table de nuit, à côté d'un bout de chandelle que Becky avait aussi pensé à fourrer sous la couverture. Mais elle n'avait exécuté que la moitié de ce projet et avait seulement enfoui dans cette cachette le petit cornet avec lequel elle éteignait sa chandelle au moment de se livrer au sommeil. « Je vous aurais reconnu n'importe où, » continua-t-elle. « Il est des choses qu'une femme n'oublie jamais, et vous êtes le premier homme que j'ai distingué. »« En vérité, » dit Joss, « mais par mon âme, vous ne m'en aviez encore rien dit. Lorsque j'ai quitté Chiswick avec votre sœur, j'étais presque encore une enfant. Au vrai, comment va-t-elle, cette chère Amélie? Elle avait un bien vilain mari, et tout naturellement, c'était de moi qu'elle était jalouse, cette chère petite, comme si je m'étais soucié de lui, alors qu'il y avait quelqu'un au monde. Mais hélas, ne revenons pas sur le passé. » Elle essuya en même temps ses paupières avec un mouchoir garni d'une dentelle déchirée. « Vous êtes surpris de me voir ici, » reprit-elle ensuite. « Et à la vérité, je me trouve dans un monde fort différent de celui que j'ai fréquenté jusqu'ici. Ah, si vous saviez combien il m'a fallu supporter de chagrins et de soucis. Voyez-vous, avec les tourments que j'ai soufferts, il y a eu de quoi me rendre folle. Maintenant, mon humeur inquiète me promène de pays en pays. Et au milieu de cette vie agitée et malheureuse, j'espère enfin m'affranchir du chagrin qui me poursuit. Tous mes amis m'ont trahi. Tous, entendez-vous bien? Non, non, la terre tout entière ne porte pas un homme d'honneur. Ce qui du moins fait ma force, c'est que ma conscience ne me reproche rien. Car si j'ai épousé mon mari, c'était parce que, dans mon dépit, je voyais qu'un autre, mais laissons cela. Ma conduite a toujours été celle de l'honneur et de la droiture, et en retour, je n'ai trouvé que mépris et abandon. On n'a rien respecté, pas même mes affections maternelles. L'enfant de mon amour, qui faisait mon espoir, ma joie, ma vie, mon orgueil, l'unique objet de mes plus secrètes prières, eh bien, on a eu la cruauté de me l'enlever, de venir le prendre presque dans mes bras. » En même temps, elle accompagnait ses paroles des signes du plus violent désespoir. Elle portait la main sur son cœur et se frappait la tête contre le traversin. La bouteille à l'eau-de-vie qui s'était égarée dans ces parages tinta contre l'assiette où se trouvaient les restes du pâté, ce qui produisit un cliquetis des plus propres à produire la pitié. C'était sans doute l'émotion qui les gagnait au spectacle de cette grande douleur. Max et Frix écoutaient à la porte, tout surpris des sanglots et des pleurs de Mrs. Becky. Joss aussi était à la fois effrayé et ému en voyant l'ancien objet de ses flammes dans cet état de grande exaltation. À la faveur de la compassion qu'elle avait réussi à faire naître, Rebecca se mit à raconter son histoire avec une simplicité, une naïveté, un abandon qui portait la persuasion dans le cœur de son auditeur. Comment, après un récit aussi véridique, hésiter à la prendre pour un ange descendu du ciel pour être sur cette terre la victime des infernales machinations de ces vilains diables que l'on y rencontre? Oui, c'était bien une créature immaculée, une martyre inébranlable au milieu des persécutions, que cette femme que Joss voyait assise sur le lit à côté de la bouteille d'eau-de-vie. Leur entretien se prolongea encore fort longtemps et fut des plus tendres et des plus confidentiels. Ce fut au milieu de ces touchants épanchements que Joss apprit, d'une manière qui ne pouvait blesser sa pudique nature, que la vue de sa séduisante personne avait été pour Becky la première révélation des douceurs ineffables que l'on trouve dans l'amour. En vain, George Osborne avait eu le tort impardonnable de lui faire la cour. d'exciter ainsi la jalousie d'Amélia et d'amener quelques nuages entre elle et lui. Jamais Becky n'avait donné le moindre encouragement au malheureux officier. Car depuis le jour où elle avait vu Joss, toutes ses pensées avaient été dès lors pour lui. Sans doute, ses devoirs d'épouse lui avaient été durs à remplir, mais jusqu'ici, elle les avait rigoureusement accomplis et voulait les accomplir jusqu'à son dernier jour, jusqu'au moment où le climat fatal dans lequel vivait le capitaine Crowley viendrait la délivrer d'un joug que ses durs traitements lui avaient rendu insupportable. En se retirant, Joss emporta la conviction qu'il venait de voir la femme la plus vertueuse et la plus aimable que le monde possédât, et il se mit à ruminer dans son esprit mille projets inspirés par le plus tendre intérêt et le désir de réparer à son égard les injustices du sort. Ces tortures si prolongées devaient avoir leur terme. Elle devait enfin rentrer dans le monde dont elle avait fait si longtemps le plus bel ornement. Joss veillerait à tout ce qu'il y avait à faire. Pour arriver à ce but, la première chose était de la retirer de ce misérable taudis pour la mettre dans un logement plus convenable. Il se proposait de charger Amélia de cette négociation et de la prier d'aller voir son amie et de la traiter comme par le passé. En sortant, il allait de suite s'en entendre avec le major. Rebecca versa des larmes d'attendrissement et de reconnaissance en reconduisant son gros visiteur et lui serra la main comme il s'inclinait pour déposer un baiser sur la sienne. Becky fit à Joss un salut aussi gracieux que si le galta dont elle venait de lui faire les honneurs eût été tout au moins un palais. Lorsque cette masse pesante eut disparu dans les profondeurs de l'escalier, Hans et Fritz, la pipe à la bouche, vinrent trouver leur voisine dans sa chambre et elle les divertit beaucoup en faisant à leurs yeux la caricature de Joss. Elle n'oublia pas le pâté dans la cachette où elle l'avait mis, non plus que sa chère bouteille d'eau-de-vie, à laquelle elle fit de nombreuses accolades. Pendant ce temps, Joss se dirigeait vers la demeure de Dobbin. Il prit un air grave et solennel pour lui redire la touchante histoire qu'il venait d'entendre. Mais il eut soin d'omettre l'aventure de la nuit précédente. Tandis que nos deux amis discutaient ainsi sur ce qu'il y avait à faire pour Mrs. Becky, celle-ci achevait le déjeuner à la fourchette, si brusquement interrompu par la visite de Joss. Comment expliquer sa présence dans cette ville, l'abandon où elle se trouvait, ses courses vagabondes? Le motif s'en trouve dans un des premiers classiques que l'on met aux mains des écoliers. La pente de l'Averne est facile à descendre, a dit le poète. Jetons le voile sur cette partie de son histoire. Si Becky était alors encore un peu plus dépravée qu'au temps de ses grandeurs, la faute en était à la fortune qui l'avait fait descendre si bas. Quant à Amélia, dont l'excessive douceur dégénérait presque en faiblesse, il lui suffisait d'apprendre que quelqu'un était malheureux pour que son cœur fût aussitôt touché d'une belle pitié en faveur de celui qui souffrait. L'idée du malheur d'autrui, alors même qu'il était mérité, lui était insupportable. Selon elle, il aurait fallu abolir les prisons, le code pénal, les menottes, le fouet, la pauvreté, la maladie et la faim. Il y avait tant de bonté dans ce cœur qu'il était toujours prêt à oublier même une injure mortelle. En apprenant l'aventure sentimentale arrivée à Joss, l'impression du major ne fut pas tout à fait conforme à celle de l'ex-fonctionnaire du Bengale, et même son premier mouvement fut peu favorable aux infortunes de notre aventurière. « La voilà donc revenue sur l'eau, cette petite drôlesse, » répondit-il tout d'abord à Joss. Il n'avait jamais éprouvé pour Rebecca la plus légère sympathie. Loin de là, elle ne lui avait inspiré que de la défiance depuis le moment où les petits yeux perçants et verts de cette jeune intrigante s'étaient arrêtés sur les siens pour s'en détourner ensuite avec une pruderie affectée. Cette infernale créature porte le malheur à sa suite et le répand partout où elle va, dit-il, sans autres égards pour Mrs. Rodon. Qui sait le genre de vie qu'elle a menée depuis que nous l'avons perdue de vue? Que vient-elle faire ici, toute seule, en pays étranger? À d'autres, ces histoires de persécution et de torture. Une honnête femme ne manque jamais d'inspirer la sympathie et d'ailleurs ne quitte point ainsi sa famille. Pourquoi a-t-elle planté là son mari? Je sais qu'il ne valait pas grand-chose, et que sa réputation n'était pas meilleure que lui. Je n'ai pas oublié les manœuvres de ce chevalier d'industrie pour arriver à dépouiller ce pauvre Georges. Et puis, lorsqu'ils se sont séparés, n'y a-t-il pas eu à ce propos du bruit et du scandale ? Il est venu comme une rumeur de cela à mes oreilles. » Le major Dobbin, s'échauffant de plus en plus, accablait de ses fâcheux souvenirs la pauvre Rebecca, tandis que Joss faisait de son mieux pour le convaincre qu'elle était digne de tout respect et qu'il fallait voir en elle la plus vertueuse comme la plus persécutée des femmes. « Je le veux bien, » dit le major en diplomate consommé, « nous nous en rapporterons à Mrs. George. Allons de ce pas la consulter. Vous m'accorderez, j'espère, que nous ne pouvons tomber sur un meilleur juge en cette matière. » « Peu, Amy, » fit Joseph, qui n'était pas alors dans ses moments de tendresse pour sa sœur. « Eh bien quoi ?» reprit le major avec vivacité. « Morbleu, monsieur, c'est la femme qui possède le jugement le plus sensé et le plus fin que j'ai rencontré de ma vie. Je vous le répète, allons de ce pas la trouver. Nous lui demanderons ce qu'elle pense d'un rapprochement avec cette femme, et quelle que soit sa décision, je m'engage à m'y soumettre. » Ce fourbe abominable de Dobbin croyait dans son fort intérieur être sûr d'avance de l'arrêt. Il se rappelait qu'autrefois Amy avait été, et avec de trop justes motifs, jalouse de Rebecca, et elle ne prononçait jamais son nom qu'avec un frémissement de terreur. « Or, une femme jalouse ne pardonne jamais, » pensa Dobbin. Ce fut au milieu de ces réflexions que les deux amis arrivèrent auprès de Mrs. George, qui roucoulait en ce moment de toute la force de son gosier, sous la direction de Madame Schtroumpf. Quand la maîtresse de chant se fut retirée, Joseph entama la conversation avec le ton solennel qui le quittait rarement. « Amelia, ma chère, lui dit-il, par mon âme, je viens de faire la plus extraordinaire, oui, la plus extraordinaire rencontre que vous puissiez imaginer. Une de vos anciennes amies, une de vos bonnes amies, est nouvellement arrivée ici, et je serais bien aise que vous allassiez lui faire visite. » Faire visite ? Et à qui donc ? Demanda Amelia. Prenez garde, Dobbin, vous allez casser mes ciseaux. Le major s'était emparé des sudits ciseaux par la petite chaîne à laquelle les dames les suspendent d'ordinaire à leur ceinture, et leur imprimait un mouvement de rotation qui inquiétait vivement Amelia sur leur sort. C'est une femme que je ne puis sentir, dit le major d'un ton hargneux, et que vous n'avez aucun sujet d'aimer beaucoup. C'est Rebecca. Rebecca, n'est-ce pas ? Fit Amelia toute rouge et paraissant fort agitée. Vous avez deviné. C'est précisément cela, répondit Dobbin. Bruxelles, Waterloo, avec leurs souvenirs si amers et si douloureux, se présentèrent à l'esprit de la pauvre femme et soulevèrent dans cette âme sensible une terrible agitation. « Ne me demandez point à la voir, » continua Amy. « Il m'est impossible de la voir. » « Je vous l'avais bien dit, » fit Dobbin en se retournant vers Joss. « Ah, si vous saviez comme elle est malheureuse, » reprit Joss avec une nouvelle insistance. « Elle est plongée dans l'indigence la plus complète, sans amis pour la secourir, et elle a été malade à toute extrémité, et enfin son indigne mari a eu l'infamie de l'abandonner. » Amelia poussa un soupir. « Elle n'a plus un seul ami au monde, entendez-vous ? » continua Joss avec une habileté qui avait de quoi surprendre de sa part. « Elle m'a dit que sa dernière espérance reposait tout entière sur vous. »« Ah, elle est bien à plaindre, Amy. Sa douleur va presque à la folie, et son histoire m'a vivement touché. Oui, je vous le jure sur l'honneur, jamais si cruelle persécution n'a trouvé victime aussi résignée. Sa famille a été bien dure et bien cruelle à son égard. » « Pauvre créature, » fit Amelia. Faute de trouver un ami qui lui tende la main, elle dit qu'il ne lui reste plus qu'à mourir. Et Joss, d'une voix émue et tremblante, continua sur le même ton. « Par mon âme, vous savez sans doute qu'elle a déjà essayé de se donner la mort. Elle porte toujours du laudanum avec elle. Elle en a une bouteille dans sa chambre, une pauvre petite chambre, bien misérable, dans une maison plus misérable encore, l'hôtel de l'éléphant. Elle loge dans les combles. J'ai voulu y aller moi-même. » Cette dernière particularité n'eut pas l'air de faire grande impression sur Amy. Elle fit même un léger sourire. Peut-être voyait-elle en esprit, Joss tout essoufflé, gravir les étages successifs. « Elle est seule, seule en face de son chagrin, » reprit-il. « Le récit des tortures qu'elle a endurées a vraiment de quoi fendre l'âme. Elle a un petit garçon du même âge que Georgie. » « Oui, en effet, » reprit Amy, « je crois m'en souvenir. Eh bien, et après ? Le plus joli petit ange qu'on puisse voir, reprit Joss, dont la sensibilité était en raison de la grosseur, et qui avait été fort ému par l'histoire de Becky. Un petit ange qui adorait sa mère, et ses bourreaux ont eu la barbarie de l'arracher à ses bras, et ne lui ont plus jamais permis de le revoir. « Cher Joseph, » s'écria Amy, éclatant en sanglots, « courons sur le champ auprès d'elle. » Elle s'élança aussitôt vers sa chambre à coucher, mit son chapeau en toute hâte, et revint avec son châle sur le bras, en priant Dobbin de l'accompagner. Le major arrangea le châle sur les épaules d'Amelia, c'était un cachemire blanc qu'il lui avait rapporté des Indes. Il vit bien alors qu'il ne lui restait d'autre parti que celui de l'obéissance, et, offrant son bras, il sortit avec elle. « C'est au numéro 92, au quatrième étage, » leur avait dit Joss, qui ne se souciait peut-être plus beaucoup de tenter une nouvelle ascension. Content du succès qu'il venait de remporter, il alla se placer à la fenêtre du salon qui dominait la place où était situé l'hôtel de l'éléphant, et il put voir Amelia au bras du major, se dirigeant vers la demeure de Becky. Fort heureusement pour elle, elle les aperçut de sa mansarde où elle était à causer et à rire avec les deux étudiants et où l'on ne ménageait pas ses railleries au grand-papa de Becky. Par suite de la remarque qu'elle venait de faire, elle s'empressa de congédier les deux compagnons et de mettre un peu d'ordre dans son petit réduit avant l'arrivée du propriétaire de l'hôtel qui, sachant que Mrs. Osborne était en grande faveur à la cour du grand-duc, se confondit auprès d'elle en saluts de toutes sortes et voulut l'accompagner jusqu'à l'étage supérieur, s'excusant de la roideur de l'escalier et de l'élévation des marches. « Ouvrez, s'il vous plaît, ma charmante lady, » fit le propriétaire de l'hôtel, en frappant à la porte de Becky, à laquelle, la veille encore, il n'accordait qu'un « madame tout sec » et qu'il avait traité jusqu'alors avec fort peu de politesse. « Qu'est-ce ? » demanda Becky en passant la tête à demi, puis elle poussa un petit cri. Elle avait devant elle Amy tremblant de tous ses membres, et Dobbin avec sa grande taille appuyée sur sa canne. Il était là en observateur et prenait le plus grand intérêt à la scène qui allait se passer. Amy s'élança les bras ouverts au-devant de Rebecca. Elle venait de lui pardonner le passé, l'embrassant avec toute l'effusion du cœur. « Et toi, pauvre créature souillée, depuis quand avais-tu été l'objet d'aussi pure, d'aussi sainte caresse ?